et à tous, bienvenue sur la deuxième saison du départ. Moi c'est Manon et je vous emmène tous les derniers samedis du mois à la rencontre d'une personne extraordinaire dont le parcours est hyper inspirant. J'invite hommes et femmes à venir raconter comment leur vie a changé. Que le changement soit professionnel ou personnel, d'une reconversion à un déménagement, mes invités retracent le chemin avec moi pour vous montrer que tout est possible et pour, je l'espère, vous inspirer dans vos propres choix de vie. À travers ce podcast, je voudrais que tout le monde voit que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de l'année et de la saison 2 du podcast. J'espère qu'il vous plaira. J'accueille Lucie à mon micro. Avec Lucie, on s'est rencontrés il y a plusieurs années parce qu'on était dans la même école d'ingénieurs. Alors vous vous doutez bien, Lucie a un parcours différent et ne s'est pas arrêtée à cette école. Après un an en tant qu'ingénieure dans une start-up, Lucie décide de reprendre des études pour se lancer dans le monde de la mode qui la fascine. En regardant en arrière, elle sait que ce domaine l'a toujours attirée, mais elle n'avait jamais envisagé d'en faire un métier. Mais quand elle est arrivée à Paris, pour son premier emploi, elle est plongée dans la ville de la mode. Alors c'est plus fort qu'elle, elle se lance dans cette nouvelle vie, non sans peur, mais avec une grande détermination. Je vous laisse écouter notre conversation et je vous retrouve après pour des dernières informations. Bonjour Lucie.
Bonjour Manon.
Comment tu vas ?
Ça va bien, merci, et toi ?
Ça va, merci. Écoute, je te remercie d'être revenue.
C'est un plaisir. Non mais écoute, ça fait plaisir de te revoir et de repartager ça avec toi.
Ouais, parce que du coup, on a déjà enregistré cet épisode.
Exactement.
Mais il a disparu. Je ne sais pas où il est.
C'est obscur.
Enfin bref, depuis j'ai changé tous mes process, je ne devrais plus le perdre cet
pas
épisode.
Soucis, je reviendrai une troisième fois.
Quand même, j'ai quand même la chance que ça tombe sur toi. Et ben écoute, on va repartir.
Tout à fait.
Est-ce que tu veux bien te présenter ? Alors par contre, je ne sais plus si j'avais déjà fait ce cheminement intérieur la première fois que tu étais venue, mais j'ai beaucoup demandé à mes invités de se présenter et de me dire ce qu'ils faisaient dans la vie, c'était ma question. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens se présentaient toujours par leur métier, mais en fait, ce qu'on fait dans la vie, ce n'est pas forcément son métier.
Tout à fait.
Ça peut être plein de choses. Et donc, je vais te demander de te présenter et de me dire ce que tu fais dans la vie, mais sans prisme, vraiment comme tu veux.
Ok. Donc, je m'appelle Lucie. J'habite à Paris depuis 3 ans et demi, presque 4 ans. Je travaille quand même parce que j'aime bien mon travail. Donc, je le dis dans le milieu de la mode. Enfin, je développerai ça plus tard après avec toi. Et sinon, j'aime beaucoup Paris, mais j'aime beaucoup bouger aussi, lire, dessiner. J'ai repris le dessin il n'y a pas très longtemps. Et sortir. J'aime beaucoup sortir. Voilà. Bon, comme très beaucoup bien. De gens, hein, mais bon, pas très original.
Mais c'est très bien. Est-ce que tu peux me dire un peu quel genre de petite fille tu étais et cette fois, quel métier tu voulais faire quand tu étais petite ?
Ouais, alors j'ai repensé à notre discussion la dernière fois. Et en fait, je me décrirais comme une petite fille assez calme, assez discrète, mais très curieuse. Donc je fouinais un peu partout et tout. Et surtout, j'avais un énorme délire à l'époque, c'est que je voulais être enquêtrice. Enfin, j'adorais les enquêtes, donc j'espionnais des gens. Tu vois, ce genre de truc, j'avais des talkie-walkie, je chopais des fréquences pour espionner des voisins et tout, ce genre de choses. Et c'était incroyable, et je voulais faire ça dans ma vie. Et j'avais oublié, et ma mère m'a rappelé ça la dernière fois. Et jusqu'à 9 ans, je voulais faire ça.
Voilà. Trop marrant, je sais pas si c'est très légal ce que tu faisais.
Non, c'était pas légal du tout, je crois. Et quand je suis des gens, je suis des gens de ma famille, hein. J'allais pas dans la rue. La petite trop bizarre, tu sais. Non, non, ça restait autorisé, je pense. Mais j'adorais faire ça.
Trop marrant, c'est la première fois que j'entends cette histoire.
Voilà, voilà.
Et après, donc, t'as dit jusqu'à 9 ans, et après, quand t'as grandi.
Et alors là, je m'étais un peu perdue. Il y a eu un moment où quelque chose par rapport aux sciences. Donc, j'ai voulu faire médecine à un moment, collège, lycée. J'ai réalisé que ça, c'était un peu une galère. Enfin, je sais pas, que c'était compliqué. Et que je connaissais personne dans mon entourage qui avait fait médecine. Enfin, dans ma famille, je parle parce que je pense que... Je te dis ça parce que du coup, j'ai fait des études scientifiques... qui ont mené à une école d'ingénieurs que tu connais. Et surtout, je pense, parce que le fait que mon père ait fait ingénieur, que mon frère veuille faire ingénieur aussi, je pense que ça a un peu déterminé aussi mon choix d'orientation.
Donc ça, c'était au lycée plutôt.
Ouais, ouais, voilà. Mais sinon, collège, tu vois, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une volonté particulière. Non.
Donc après, tu t'es dirigée vers un lycée généraliste.
Ouais, exactement. Ouais.
Avec un bac S, ça s'appelait à l'époque.
Exactement. Ça fait quelques années que c'est plus ça. 2-3 ans, je crois. Moi, je sais que mon frère, il a eu la réforme, là. Ouais.
Ouais, on s'en fout. Et est-ce que quand tu te lances dans ce bac S, tu sais derrière ce que tu veux faire déjà à l'école d'ingénieur ou comme tout le monde un peu entre guillemets, mais c'est parce que c'est la voie qui ouvre le plus de portes. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était ça qu'on nous rabâchait tout
exactement.
Le temps.
C'était très très flou quoi. Enfin, c'était un peu la facilité, c'était un peu repousser le moment de faire un choix. Tu vois, c'est ça reste assez généraliste. C'est vrai que c'est connu quand même. Après, tu peux faire plein de choses. La preuve, toi et moi. Et du coup, ouais, c'était un peu par sécurité, le fait que dans ma famille, on avait un peu fait ça, et je me suis un peu laissée aller là-dedans, quoi.
Mais voilà. T'as quand même fait une prépa, après.
J'ai fait une prépa, ouais, tout à fait.
Est-ce qu'on se laisse aller dans une prépa ?
Non, là, il faut un peu s'accrocher. Après, je pense que j'ai un tempérament, moi, à être assez... à m'adapter vite. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, même si j'aime pas quelque chose... Et ça a été le cas en école après d'ingénieur, beaucoup surtout. Mais je vais essayer de voir le positif et me dire que ça reste quand même intéressant et piocher le positif dans tout ce qui est arrivé, enfin, que ce soit en prépa ou en école. Et même si des fois il y avait des moments où j'en avais un peu marre, j'ai pas un mauvais souvenir, tu vois, de ça. Enfin, même presque un bon souvenir. Alors que c'était pas ma vocation, mais ouais, franchement, c'était vraiment bien.
Je pensais être la seule sur Terre à avoir un bon souvenir
de
la prépa.
Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai rencontré des gens super, et puis je trouvais qu'on avait une capacité à réfléchir qui était impressionnante et à se concentrer. Et je suis fascinée par cette époque. À un moment, des fois, je me dis, c'était fou. Ouais. Mais maintenant, je dis pas qu'on est bête, mais tu vois, il y avait ce truc d'engranger plein d'infos, quoi. C'était assez impressionnant.
J'adore cette définition de la prépa. Ça se trouve, ça va donner envie à des gens de faire
peut-être,
prépa, carrément.
J'espère. Écoute, peut-être pas, peut-être. Ouais.
Et après ton école, comment tu l'as choisie ?
Alors, l'école d'ingénieur, écoute, c'était vraiment, mais au pif total. C'est-à-dire qu'il y avait, donc, je sais pas si tout le monde est familier avec les concours d'école, mais on a un rang. Donc moi, j'avais passé un concours... le CCP, enfin ça parlera à personne peut-être, mais c'est un concours, il y a beaucoup beaucoup d'écoles, pas dans les plus prestigieuses, dans le milieu en fait. Et honnêtement, j'ai classé mes écoles par ce que je pensais pouvoir avoir, et je voulais pas y rester à Toulouse parce que j'étais de Toulouse. Et donc tu vois, à l'école qu'on a fait à Bordeaux, j'avais mis méca et juste après j'ai mis télécom, ce que j'ai fait. Donc il y avait aucun rapport. Ça, c'est hyper différent, ça n'a aucun sens. Mais je me suis dit on verra, et j'ai pas eu méca et j'ai eu télécom, et donc j'ai atterri en télécom. Ça se joue à rien du tout, quoi.
Ouais, on aurait même pu se retrouver dans exactement. La même promo à rien du tout, parce c'est que moi ça. J'ai fait méca de cette fameuse école.
Ouais. Et toi, t'avais choisi méca vraiment ? C'était un choix ? Ah oui, d'accord.
Ouais, moi j'avais choisi méca, j'avais mis que des écoles en méca. Okay. Et moi, c'était la méca, mon truc. Et j'avais mis Grenoble en premier et Bordeaux en deuxième. Oui. Et moi, j'avais fait en fonction des villes, quoi.
Ah oui, d'accord. Non, mais vraiment, notre avenir était très obscur, quoi. Enfin, obscur, non, mais c'est marrant.
Ah ouais, les choix se font.
Ah ouais, c'est fou, quoi. C'est rigolo.
Mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont vraiment une idée précise et qui veulent... Mmh. Donc après, c'est...
Tout à fait. Non, ouais, j'espère pour eux. S'il n'y a que des gens comme nous, c'est rigolo.
Non, mais c'est bien.
Ouais.
C'est quoi Télécom ?
Alors Télécom, on avait... donc c'est... Ah là là, attends. On a beaucoup d'informatique.
C'était loin. Ouais,
informatique, on a beaucoup de codes, donc on développait. Et c'était aussi traitement du signal. Donc pour vulgariser un peu, c'est les ondes, donc le Wi-Fi, ce genre de les radars, voilà, des ondes audio ou électromagnétiques, tout ça. Et ouais, et globalement beaucoup de code, beaucoup d'informatique. Ce à quoi je n'étais pas réellement prête.
Non, parce qu'on en... Alors, je crois que les programmes ont changé, mais nous, on n'en faisait pas du tout en prépa, du code.
À peine, ouais, non, on faisait le B.A.B.A. du B.A.B.A. Ouais. Ouais. Mais je ne sais pas s'ils en ont plus maintenant. Ouais.
Et tu savais pas du tout ce que c'était
Non, toujours pareil, dans mon déni, je m'étais dit « Ah, mais ça va être rigolo, je vais m'adapter. » Honnêtement, il y a eu des super projets, des choses hyper intéressantes, même toujours pareil, je garde un bon souvenir. Sauf que je savais que pour le coup, que là, maintenant, il fallait arrêter de... Non, j'ai pas eu encore le déclic. Non, non, je dis n'importe quoi. J'ai continué dans mon truc. Je savais qu'à terme, dans ma vie, je ferais pas ça. Mais pour l'instant, les quelques mois, même valider mon stage ou quoi, tu vois, ça me dérangeait pas de faire ça.
Et tu savais ce que tu savais que tu ferais pas ça toute ta vie, mais tu savais ce que tu ferais autre ou
non,
pas ?
Non, pas du tout. Non, non, ah non. Ouais. Parce qu'en plus, on a été beaucoup, alors surtout à l'école, pas élevé, mais on nous a beaucoup enseigné que ben on fait ces études-là, c'est pour faire ce métier-là, et ne serait-ce que faire un truc qui s'éloigne un peu. Tu te rappelles, ceux qui voulaient aller en finance, ceux qui voulaient aller en faire du commerce plus, on était plus pris au sérieux du tout. Donc il y avait ce truc, bah tu coderas, et voilà, et rien à dire. Du coup, j'ai fait OK. Non, je savais pas du tout, honnêtement, pas du tout quoi faire.
Mais après, il faut quand même, donc tu disais valider le... Ouais. Quand tu disais valider ton stage, c'est parce qu'en fait, en dernière année, on a un stage de 6 mois à faire pour valider le diplôme.
Tout à fait.
Dans quel domaine est-ce que tu fais ce stage de 6 mois ?
Alors moi, je trouve quand même un stage à Paris, parce que je voulais aller à Paris. Et je vais, et j'avais quand même ce truc un peu créa qui me titillait. Et je me dis, je vais aller dans une start-up, une très petite start-up à Paris. On était 8. Enfin, ils sont toujours 8, je crois. Et en fait, ils créent des avatars 3D grâce à une cabine, une grande cabine à taille humaine avec plein de petites caméras pour faire de l'essayage virtuel de vêtements en ligne, des applications. Ils travaillent notamment avec des salles de sport pour faire un suivi d'évolution de la morphologie sur ton avatar, enfin, ce genre de choses. Donc, il y avait une petite touche un peu d'innovation, un peu, ouais, je sais pas, ça me parlait bien. Et j'avais beaucoup accroché pendant les entretiens et du coup j'avais été prise là-bas en stage 6 mois.
Il te venait d'où ce petit truc créatif ? T'as dit j'avais ce petit truc créatif.
Ça c'est un truc que j'ai toujours eu depuis toute petite, de bricoler un peu, de dessiner, mais des dessins je continue toujours. Et surtout, alors ça du coup ça rejoindra un peu la suite de la discussion, mais très fascinée par tout ce qui est attrait aux vêtements, aux matières, aux... à la mode quoi, concrètement. Enfin, j'ai dessiné un peu de tout, tu vois, même j'aimais bien avoir des tableaux, j'avais des livres de dessin, des livres de peinture, mais souvent ça revenait quoi, tu vois. Je revois des dessins quand j'étais petite, c'est vrai que je faisais instinctivement des robes, tu vois, c'était pas incroyable à l'époque, c'était un triangle, tu vois, mais c'est vrai que c'était un truc qui était de cet aspect-là.
Et ça n'a jamais été pourtant une voie pour toi qui aurait pu se passer avant tout ça ?
Jamais, non. Ça, honnêtement, alors le déclic, je l'ai eu à Paris, après, mais non, jamais au point de me dire « Ah, quand même, c'est un milieu dans lequel j'aimerais travailler. » Ça ne m'est même pas, je pense, jamais traversé l'esprit. Ouais. Voilà. Mais... Et donc, je suis dans ma start-up en stage. Donc c'est génial, Paris et tout, c'est incroyable, on fait plein de choses, en plus on est pas mal de l'école à être arrivé à Paris, comme tu le sais. Et là j'ai un premier déclic où il y a quand même une ambiance ici qui est très liée autour de ça, à la mode, le luxe, toutes ces grandes maisons françaises. Et là j'ai un premier moment un peu de flottement où je vois des boutiques ou des trucs comme ça où, et là j'ai un truc où je me dis ah ouais quand même ça me fascine, mais plus que de le voir, il y avait une espèce de frustration qui naissait de pas être là-dedans, tu vois. Et après le stage où j'étais, il m'embauche en CDI, donc moi je continue dans mon déni de... Je dis mais bien sûr, mais carrément je vais travailler avec vous, et je reste un an en CDI chez eux au final. Mais au bout de 6 mois de CDI, donc un an au total chez eux, 6 mois de stage plus 6 mois en CDI, là je commence à... Donc on est vers Noël et je commence à chercher des formations pour un peu me réorienter.
Ah oui.
C'est ça. Et donc je regarde un peu partout et je cherchais une formation un peu courte et pas... Je me voyais pas trop repartir en 3 ans d'études, tu vois, un truc long. Et je tombe sur un master spécialisé donc à l'Institut français de la mode. Et c'était donc 6 mois de cours, pardon, 9 mois de cours, 6 mois de stage. Et après, avec le diplôme, c'est en plus assez réputé, donc t'as un peu un réseau. Et c'était... Et je me suis dit, ah, je vais faire ça. Et voilà. C'était la révélation.
C'était un master spécialisé en quoi ?
Alors, ça s'appelle Management Mode et Luxe. Et en fait, concrètement, on a des cours. hyper mode produit, donc les matières, les façons de coudre, je sais pas, le cuir, tout ce que tu vraiment très produit, on appelait ça, jusqu'à la com, donc on avait des cours de digital, faire un site, tu vois, vraiment de tout. Retail, comment vendre les produits, les sélections en produits en magasin, et ouais, et même plus marketing, chiffres, analyse, tu vois, analyse de collection, tout ça. C'est ça que j'adorais, c'est qu'il y en a tout un spectre, et après on nous dit choisissez une option qui vous plaît le plus, quoi. Et ce qui est incroyable avec ce master, je recommande beaucoup d'ailleurs, c'est que on venait de tellement d'univers différents. Moi c'était ça ma peur, c'était de faire face à des gens qui avaient travaillé là-dedans, qui étaient qui avaient une culture beaucoup plus développée que la mienne sur ce sujet-là. Et en fait il y avait de tout, mes meilleures copines là-bas, on fait du droit, Sciences Po, enfin il y en a qui... Enfin tu vois, il y a vraiment tout, il y en a un qui était pianiste, tu peux tout faire, quoi. Et il n'y a aucun jugement, et tout le monde évolue comme il le souhaite là-dedans, et voilà.
C'est vraiment un master pour les gens qui se reconvertissent dans ce domaine.
Ouais. Je dirais que les trois quarts des gens, ce sont des gens qui souhaitent un peu rebondir, tu vois.
Et pourquoi tu voulais pas te relancer dans un cursus plus scolaire ? Parce que il y a des âges pour les cursus scolaires. J'aime pas le mot classique, mais
je vois ce que tu veux dire.
Voilà. Et je pense que tu étais encore dans ces âges.
Tout à fait.
Et pourquoi tu veux pas te relancer dans ce cursus ?
Alors, je pense qu'il y avait aussi un aspect assez. C'est peut-être bête à dire, mais financier aussi, parce que...
Mais c'est pas bête du tout.
Non, c'est pas bête du tout. Je veux dire, on pourrait se dire, bon, tu bosses un peu à côté, ou tu peux aller faire une alternance, ça aurait pu se faire, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais envie aussi, pas de d'écourter au maximum, mais un peu... Disons que c'était le format parfait, je trouve, là, un an et demi au final, en total, avec le stage, quoi. Et aspect financier, d'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir négocié une rupture conventionnelle, moi, avec mon ancienne start-up. Ce qui m'a permis de toucher un peu d'argent, je ne sais plus exactement combien c'est, enfin le pourcentage de mon salaire, je ne sais plus combien c'était, mais ça m'a beaucoup aidée et c'est bien que ça existe.
Donc pendant que tu étais en cours, tu touchais.
C'est ça.
C'est le chômage que tu touchais ?
Ouais, c'est ça. Pendant combien de temps j'ai touché ? Pas la totalité, parce que ça s'est fini à un moment. Et quand j'étais en stage, j'y avais plus droit, enfin en tout cas, je ne l'avais plus, je me rappelle de ça. Mais je touchais pendant bien 6-7 mois, je crois, le chômage. Okay. Ça s'appelait en formation, il y avait le mot formation dedans, aide, je sais plus. Pourrais que je retrouve ça.
Si tu retrouves, je le mettrai dans les notes, ouais, après sinon ça marche. Mais c'est trop bien, je savais pas du coup que pendant que tu étais en cours, tu pouvais... Ouais.
Si, et c'est l'école qui nous a beaucoup aidé là-dessus. On était beaucoup à l'âge moyen, je pense qu'il était comme moi. Il y a des gens qui avaient beaucoup travaillé avant, donc ils se réorientent. Donc on avait tous un peu travaillé et du coup, elle nous a beaucoup aidé là-dedans aux démarches, quoi dire à Pôle emploi et tout, etc.
C'est cool.
Ouais, c'est cool.
Et la formation en elle-même, elle était payante ?
Oui, elle était payante, sachant qu'il y a la possibilité de la faire en alternance, ce que j'ai pas voulu faire parce que juger que je revenais de tellement loin sur les cours et tout, et que j'avais envie de faire que ça, que j'ai pas voulu alterner entreprise, école. Mais c'est totalement possible. Et je sais que l'entreprise peut financer la formation. Et sinon, il y avait une bourse que j'ai pas eue, parce que je crois que j'étais pas éligible à la bourse. Je sais même plus si je l'avais demandé, parce que je crois que ça me... Mais il y a une bourse pour aider. Et je connais plein de gens qui en ont bénéficié.
Ok. Et toi, du coup, comment t'as financé la formation ?
Alors, c'est mes parents qui ont tout pris, qui ont payé, en fait. Voilà. D'ailleurs, je t'ai pas raconté comment je leur ai annoncé ça.
Mais j'allais y venir.
Ah, d'accord. Non, j'ai réalisé que j'ai sauté plein de taf. Ouais.
T'inquiète pas, on va revenir un peu en arrière, je pense. Parce que... Il n'y a pas de souci.
Ouais.
Parce que tout à l'heure, t'as dit, j'ai eu un premier déclic en passant devant des boutiques, j'ai eu une frustration.
Ouais.
Et après, on a fait un accéléré rapide. Et t'as dit, en décembre, j'ai commencé à chercher une formation. Mais est-ce qu'entre les deux, il y a eu un deuxième déclic, vu que t'as parlé d'un premier déclic ?
Non, c'était toujours... je faisais des expos, je faisais des... Ouais, je m'étais remis à beaucoup dessiner. des musées, expos, boutiques, et puis l'ambiance à Paris. Et là, quand j'ai commencé à avoir donc la formation à l'Institut français de la mode, c'était Noël, et les vacances de Noël arrivent. Et là, je dis à mes parents, qui savaient que c'était un peu un sujet...
tu l'avais déjà revenait, abordé avant.
Ouais, ils savaient que c'était dans un coin de ma tête quand même. Quand on est à Noël, aux vacances de Noël, et là, je me dis qu'il faut que je leur en parle. Et en plus, j'avais tout préparé, quoi. La formation, ça va faire ça, ça, ça. Enfin, moi, j'étais arrivée avec une feuille de route un peu pour les prochains mois, tu vois. Je démissionne à tel mois, après, je vais... Enfin, voilà, c'était ouais. Tout préparé. Je leur ai un peu facilité la tâche. Et au début, ils n'ont pas compris. Après, mes parents, ils sont assez... pas, un peu stricts, quand même. Mais ils étaient un peu... ça sortait un peu nulle part. Je reconnais que... Enfin, j'avais tellement jamais rien dit. Et là, d'un coup, je disais, bon, bah, l'année prochaine, je reprends les études. Il y a eu un moment de flottement pendant un jour où ils n'étaient pas sûrs, ils ne savaient pas si c'était vraiment un choix réfléchi ou plus un coup de tête. Puis eux, ils sont aussi de cette époque où tu sais, tu fais un métier toute ta vie, tu es dans la même boîte, le même bureau. Enfin, tu vois, je vois mes parents, c'est ça, quoi. Même carrière toute leur vie, c'est un peu une histoire générationnelle aussi, je pense. Tu travailles le plus tôt possible et tu fais ta vie après, derrière, quoi, au même endroit. Et ils ne comprennent pas trop. Et après, on en reparle. Et là, hyper content, quoi. Enfin, franchement, ils m'ont aidé à faire un dossier. Je t'ai pas dit que j'avais un dossier à préparer pour être prise. Un dossier assez conséquent, d'ailleurs, avec beaucoup de questions, mais aussi très personnelles, sur des questions sur la vie, enfin, en général, les expériences qu'on a vécues. Moi, j'avais joint des dessins que j'avais fait aussi, pour puis des expos qui m'avaient marqué. Enfin, j'avais fait plein de collages et tout. Et ils m'aident beaucoup à faire ce dossier. Et voilà, et après, ils étaient très fiers, très contents. Quand j'ai su que j'étais prise en février, du coup, 2019, ouais, ils étaient très, très contents.
Du coup, ce dossier, c'est... Est-ce que tu te souviens un peu du genre de questions qu'ils posaient ? Est-ce que tu peux en dire quelques-unes ?
Ouais, bien sûr, il y avait donc se présenter, mais je pense qu'ils attendaient une réponse un peu personnelle, pas se présenter, tu vois. J'ai fait ça, ça, ça dans la vie, quelque chose de plus... Ouais, qui relève plus de soi. Ensuite, il y avait quel type d'échec, quelle expérience t'a marqué, quel type d'échec tu fais face dans ta vie. Des choses assez personnelles quand même. Artistiquement, qu'est-ce qui t'anime ou pas. Enfin, plein de choses comme ça. Je me rappelle, ça je m'étais mis pendant 2 semaines, tous les soirs, je faisais que ça, quoi.
Ah oui.
Ouais, ouais, carrément. Et après, il fallait joindre aussi, forcément, comme tous les masters, je pense... des notes qu'on avait eues, je sais plus quand, enfin un bulletin de notes de la prépa, je crois que j'avais dû donner, le bac, les diplômes, enfin tu vois, des choses un peu plus administratives, quoi.
T'avais combien de temps pour faire ce dossier ?
Alors, il y a plusieurs sessions. Moi, j'ai pris la deuxième, je crois que la première est en janvier. Ensuite, il y a février, il me semble qu'il y a 5-6 sessions, tu vois, qui vont jusqu'à juillet. Et je m'étais dit, je fais en février, comme ça, c'est fait. Et puis, j'étais assez impatiente. Enfin, moi, quand j'avais l'idée en tête, tu vois, j'étais vraiment déterminée. Donc, j'ai mis mon dossier... Enfin, j'ai postulé fin janvier. Donc, un mois après les vacances de Noël, là où on a eu la discussion avec mes parents. Et j'ai eu... Donc, j'ai été prise à l'entretien. Donc là, on a un entretien, enfin, ouais, avec un jury. Donc, ouais, elles étaient 3. Et là, c'est un peu pour voir la motivation et aussi un peu creuser, je pense... pourquoi la personne fait ça, parce que c'est vrai que c'est un choix quand même assez personnel, comprendre, puis aussi voir artistiquement ce qui nous plaît, pourquoi la mode. C'était un échange intéressant et c'est pas du tout... Enfin, c'est stressant comme tout entretien, mais c'est vraiment une discussion plus qu'un interrogatoire, tu vois, avec le CV à la main, là, t'as fait ça et pourquoi. C'était vraiment une discussion. Et voilà, et ça s'est très bien passé. Et du coup, j'ai su que j'étais prise en février. Non, quelques 2 semaines après, je crois. C'était, ouais.
Et t'es prise pour septembre ?
Exactement.
T'es prise pour tout de suite ?
Pour septembre, ouais, ouais. C'est comme une rentrée de classe. Donc, de septembre à juillet, on a cours. Juin-juillet. Et de juillet à Noël d'après, 6 mois. Donc, j'ai fait mon stage de master spécialisé.
Voilà. Ok.
Il y a eu le Covid pendant
Oui, c'est ça.
mes cours, là, on a fait, ouais, mars. À partir de mars, on avait cours chez nous, quoi. C'était un peu dommage, mais ils ont bien, assez bien géré l'adaptation et tout ce qui était exposition qu'on devait faire ou atelier, on a pu les reporter à la rentrée après mon master, du coup. Donc, c'était sympa.
Du coup, tu as expliqué un peu le panel des cours tout à l'heure. Et là, tu parlais d'atelier. Alors, du coup, ça consistait en quoi les cours? Est-ce que tu avais des cours magistraux que de la théorie? Mm-hmm. Est-ce que tu avais des cours pratiques
Ouais, alors on avait des cours en amphi, où on était tous. Donc, pour te donner une idée, on était une assez grosse promo, on était 70 au total et 20 alternants. Donc,
Ok.
eux, on les voyait une fois tous les mois. Enfin, ils venaient pas souvent. Une fois, une semaine par mois, pardon. Et sinon, après, on était divisés en sous-groupes et donc on avait des projets, tu vois, 6, 7. Ça nous prenait beaucoup de temps, les projets. Et puis après, en fonction des options qu'on choisissait au fur et à mesure dans l'année, on était en plus petits groupes. Et donc, on faisait des visites. On visitait les. Dans Paris, on allait voir. Enfin, Baudin Joyeux, ça s'appelle. C'est ceux qui font la maroquinerie pour notamment Chanel, ce genre de choses. Donc, on va voir les cuirs, etc. On a fait toute une visite dans le Jura. On est parti en sortie scolaire, visiter tout ce qui était maille, enfin, plein de métiers à tisser, etc. Pour qui aussi font des pièces de prêt-à-porter pour des maisons connues. Et non, c'était assez intéressant. Tu vois, on a plein de petits ateliers
Ouais.
comme ça. Je n'ai plus qu'ils me viennent, mais même au sein de l'école, tu vois, on avait une partie cosmétique. On pouvait même choisir une option cosmétique où tu fabriquais ton parfum, tu faisais ton maquillage. Voilà, il y avait plein de choses un peu plus enfin, théoriques, certes, mais un peu plus ludiques.
Trop bien. Et c'était axé fabrication française, artisanat français, ou est-ce que vous avez quand même peut-être dans les cours, parce que aller en voyage scolaire dans le monde, peut-être pas, mais où est-ce qu'il y a un panel d'artisanat qui sont dans vos
Plus
cours?
ouais, alors déjà il faut ouais, tu fais bien, tu me fais penser à quelque chose, ils étaient très 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 axés mode durable. Parce qu'en fait, j'ai appris à ce moment-là que l'industrie de la mode et du textile, c'est une catastrophe environnementale. Donc c'est la deuxième industrie la plus polluante après tout ce qui est transport, etc. On avait honnêtement, je pense, un tiers de nos cours, voire la moitié, où vraiment ça revenait nous apprendre des matériaux nouveaux, ressourcer ces matières localement. C'était très 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 axé là-dessus. Et comme tu dis, on avait beaucoup aussi d'ateliers où ils faisaient venir des nouveaux créateurs ou des créateurs émergents et culturellement d'autres pays. Donc on avait des fois des créateurs asiatiques, africains, et du coup ils te parlent un peu bah, de leur culture, pourquoi ils font ça, de techniques de tissage ou autres que on n'a pas forcément partout. Et ouais, on en a appris beaucoup de choses. J'ai appris énormément, c'était très très intéressant.
Trop bien. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus attiré dans ces
Alors moi,
découvertes?
c'était de voir les produits et enfin les toucher, tu vois, et comprendre. Et en fait, là, je vais te dire un truc. Parce que moi, quand je suis arrivée dans cette école, je me suis dit, je vais bosser côté produit vraiment à la création, en fait. Et en
Ok.
fait, j'ai réalisé, c'est pour ça que ça vaut le coup quand même de faire des études, de reprendre des études et de continuer le parcours. C'est qu'en fait, j'aimais beaucoup cet univers. Mais pas au point de manuellement manipuler des produits, enfin être en partie plus création, quoi, en fait.
Ok.
J'adorais l'univers, j'adorais comprendre comment marche, pourquoi les gens achetaient ça et comprendre pourquoi ça a été fait, pourquoi cette collection et pas une autre. Mais j'aimais bien aussi l'aspect analyse, chiffres, tu vois, continuer à avoir une vision un peu de ce milieu-là, plus que créa. J'avais ces doubles aspects. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, en fait, ce qu'il te faudrait et qui serait parfait, c'est travailler dans ce milieu-là. Donc, quand même, avoir connaissance de tous les produits qui se font, les coupes, les couleurs et tout, la matière. Mais une vision un peu plus. Ouais, co compréhension de la collection et à quel client ça parle et en quel pays. Et plus business, si je puis dire, tu vois. Ouais.
C'est un peu ton côté scientifique qui
Voilà, c'est ça.
ressort.
Mais c'est que j'ai un peu toujours eu ce truc et c'est vrai que, en fait, je suis arrivée là et je me suis dit, mais je peux pas laisser ça, tu vois,
Ouais.
cet aspect un peu chiffre et tout. Et si j'arrive à allier les deux, ce serait parfait. Et du coup, c'est ce que j'ai fait par la suite.
Donc tu as réussi à...
C'est ça. C'est ce que j'ai fait par la suite. Du coup, j'ai cherché un stage. Enfin, j'avais pas le choix, il fallait que je fasse un stage, en fait, comme en école d'ingénieur. Et là, pour valider mon master spécialisé, il faut que je fasse un stage. Et donc, j'ai trouvé un stage en retail merchandising, c'est l'intitulé un peu barbare, mais globalement, Donc, j'ai trouvé chez Givenchy. Et en fait, quand les collections sortent, on va, en fonction de ce qui marche un peu en termes de couleurs dans le monde, de coupe, etc., on va nous-mêmes, donc on a le défilé, on a tant de produits qui sortent et de looks, et on va choisir quel look on garde pour vendre, en fait, dans les boutiques la collection suivante. Et c'était très, très intéressant. On faisait des gros tableau avec tous les looks du défilé, on allait voir les produits, on devait voir la matière, choisir, et après c'était plein d'analyses une fois que la collection est lancée en boutique sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, et comprendre aussi pourquoi ça a pas marché en Chine par exemple, et on essaye de voir, et voilà.
Vous lancez des collections différentes en fonction des endroits aussi, ou c'est on retrouve les mêmes vêtements dans tous les Givenchy du monde?
Et justement, on ne retrouve pas du tout pareil. En fait, on avait vraiment... Donc, quand la collection sort, qu'il y a donc la Fashion Week, il y a le défilé. Ensuite, il y a une énorme phase au showroom où on va présenter à tous les pays du monde les collections. Et eux, ils vont... Donc, nous, on va leur faire des propositions de choix en fonction des analyses qu'on a fait. Et eux aussi vont dire leur propre analyse côté localement, ce qu'ils pensent de leur marché local. Et en fait, oui, tu as des pièces qui sont vendues en Asie qu'aux États-Unis, ils n'auront jamais en boutique, quoi. En fonction, parce que culturellement, ouais. Tu vois, il y a des matières. Tu vois, la soie, par exemple, au Moyen-Orient, je crois qu'ils... J'ai peur de dire n'importe quoi, mais il me semble que les hommes n'en portent pas, tu vois, des choses comme ça, alors qu'ils vont en mettre aux États-Unis. Enfin, voilà, tu vois, c'est rigolo.
Trop bien. Et est-ce que... alors, tu me dis si c'est des secrets que tu n'as pas le droit de révéler.
Non, pas si.
Évidemment, mais parce que tu parlais tout à l'heure de que c'était beaucoup centré autour de l'éco-responsabilité, ouais. La mode, etc. Est-ce que les maisons dans lesquelles tu as été, je crois que tu en as fait plusieurs,
ouais.
Je sais pas, elles produisent tout dans un seul endroit et après elles exportent dans tous leurs pays, ou est-ce qu'elles vont aussi produire localement dans les pays où elles sont implantées?
Alors, c'est une très bonne question. Je vais être très honnête avec toi. Je ne saurais même pas totalement répondre. Parce que j'avais demandé... Je sais que chez Givenchy, ils avaient plusieurs lieux de fabrication. Là, vu que je suis chez Louis Vuitton, et c'est, je pense, 10 fois plus grand, même peut-être 20 fois, je sais qu'ils sont sur tous les continents en production. Et je ne saurais pas te dire exactement...
S'ils produisent localement pour le
pays. Ouais, c'est ça.
Ouais. Ok, pas de soucis. Sais pas juste. Et donc, tu as cité quand même Givenchy, Louis Vuitton. Non, j'arrive pas. Non. Voilà, tu as cité quand même deux grandes marques de luxe.
Oui.
Est-ce que c'était vraiment un souhait de travailler dans le luxe quand tu t'engages dans ce master? Tu me fais oui de la tête.
Ah oui, pardon. Honnêtement, totalement. Alors, c'est une très bonne question aussi. En fait, j'avais cette fascination des grandes maisons, tu sais. J'avais fait toutes les expos Dior, Saint-Laurent, j'avais vu toutes les archives des grands couturiers français du siècle dernier. Et c'était, je voulais travailler là-dedans. Après, c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même assez... qui fait un peu polémique. C'est quand même, on vend quand même des fois des t-shirts à 800 euros, tu vois. Et t'es là, autant une belle robe de haute couture, je comprends qu'elle a un prix... Tu vois, des fois, c'est là, bon, il y a quand même un peu... Enfin, c'est assez controversé et je vois des choses que j'aime beaucoup parce que je suis quand même... Tu vois, je marche dans les couloirs, je passe une tête, je vois les collections, je trouve ça fascinant. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui dérangent et je comprends qu'il y a des gens qui pensent que c'est un milieu très bizarre et un peu surfait et très discutable. Je l'entends totalement et c'est vrai qu'à terme, je me vois pas faire ma vie... dans le luxe, vraiment, tu vois. Dans le côté un peu mode, créa totalement. Mais luxe, je suis pas sûre de rester toute ma vie là-dedans.
C'est quand même une bonne formation, j'imagine. Enfin, ouais. C'est hyper carré.
Ouais, exactement. C'est ça, c'est assez rigoureux. Les clients sont très respectés. Enfin, tu vois, il y a une quête de l'excellence qui est assez formatrice.
Et donc tu disais que tu aimerais pas, enfin que tu te vois pas forcément rester dans le luxe toute ta vie. Est-ce que tu t'imagines avoir ta marque à toi un jour?
Eh bien écoute, alors on avait déjà parlé et je t'avais dit non et toujours pas. Figure-toi que ça c'est quelque chose. Alors je suis fascinée par les gens qui font ça parce que du coup je pense que ça te prend vraiment par Je pense que t'es hyper impliquée, quoi. C'est ton boulot, c'est ton projet, c'est quelque chose qui doit te prendre à plein temps. Et j'ai juste pas déjà d'idée de marque. Et puis j'ai pas, je pense, j'ai pas la fibre entrepreneuriale, mais ouais, c'est ce truc qui fait que du matin au soir, je bosse pour moi. Enfin, peut-être que ça viendra, mais en tout cas, là, j'ai pas ce besoin, tu vois. Je sais que je connais des... J'avais travaillé avec une copine qui avait lancé sa marque d'accessoires pour cheveux, de chouchou. Et maintenant, elle fait plein de choses en velours, des chemises. C'est très joli d'ailleurs ce qu'elle fait. Ça s'appelle Enoya. Et tu vois, j'avais travaillé avec elle un peu. Et elle, tu vois, c'est une fille. Elle, si c'est pas ça, elle fait autre chose. Enfin, son but, c'est monter sa boîte, dans quoi qu'il advienne, et avoir son entreprise, tu vois. Quel que soit un peu pas les produits, mais ouais, c'est vraiment un projet de vie. Et moi, tu vois, je suis pas du tout dans cette optique-là. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas eu de déclic.
Bah, de toute façon, il faut pour tout le monde. Il faut des salariés dans tous les cas. Donc, sinon, il n'y a plus d'entreprise.
Ouais.
T'as testé la start-up en sortant de l'école d'ingénieur. Et là, t'es dans des grands groupes.
Mm-hmm.
J'imagine que les structures sont totalement différentes, les façons de travailler totalement différentes. Est-ce que toi, t'as une préférence entre start-up, grand groupe?
Mm-hmm.
Et comment est-ce que se manifestent les différences, vraiment?
Alors, donc en start-up, ce qui était bien, c'est que, parce que c'est vrai, c'est ce qu'on entend dire, c'est qu'on touche un peu à tout, tu vois. On est tellement peu nombreux que, ben, on fait un peu de tout, c'est très varié. Et il y a quand même un peu cette pression de, ben, il faut qu'on fasse de l'argent rapidement. Enfin, c'est assez précaire que financièrement. Et du coup, il faut... Ouais, c'est assez... Enfin, il y a quand même pas mal de pression. Les grands groupes, c'est bien parce que... Enfin, moi j'aime bien quand même parce qu'il y a quand même on voit des gros projets, on a des gros projets, puis c'est vrai que nous moi je suis au central donc au siège, donc on a une visibilité sur les projets un peu qui se passent dans le monde entier pour nous. Après c'est vrai qu'il y a ce truc des grandes boîtes où ben si on veut une validation de quoi que ce soit, ben, il faut le machin qui valide des machins au-dessus, enfin tout prend énormément de temps quoi, j'ai l'impression. Ouais. Et ça je m'en rends compte. Et c'est vrai que c'est un peu... Des fois, on aimerait que tout aille très vite, on a plein d'idées. Et en fait, on est assez freiné par des accords de beaucoup de gens. Enfin, je pensais un peu dans toutes les grandes boîtes, dans tous les milieux. Enfin, dans tous les domaines, je veux dire, plutôt. Mais voilà. Il y a cet aspect plus... ouais, prise de décision un peu lente. Mais je pense entre les deux, moi, tu vois, ce serait très bien, tu vois. Une taille humaine, mais pas trop petite à 8 comme j'étais, ni là à des milliers et des milliers. Mais enfin, voilà, quelque chose entre les deux, je pense que ça me correspondrait très bien.
Tu veux passer en appel?
Recrutez-moi. Non, mais honnêtement, je me plais beaucoup là où je suis. Je pense que je resterai un moment encore, mais c'est vrai que des fois, tu te dis bon, voilà.
T'as vu tellement de choses différentes dans ton master.
Mm-hmm.
Est-ce que le fait aujourd'hui d'être dans un grand groupe, t'as une place très ciblée avec. Tu fais tous les jours la même chose, même si c'est des collections différentes tous les ans, etc. Mm-hmm. Est-ce que déjà c'est ça? Et si c'est ça, est-ce que c'est frustrant? Est-ce que t'aimerais en faire plus de choses diverses? Est-ce que c'était pas clair?
Si, c'était très clair. Non, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire, est-ce que ma place dans un grand groupe me fiche trop dans mon travail? Mais écoute, je pensais que ce serait un peu comme ça, honnêtement. Moi, je pensais que t'avais un poste dans un grand groupe et c'était ton poste. Et alors, je sais pas si c'est j'ai la chance d'avoir une manageuse... très ouverte là-dessus, mais tu vois, elle me met sur des projets hyper variés. Donc là, par exemple, on a un projet avec... on va travailler directement avec les vendeurs, enfin, les vendeurs en magasin, on leur fait une application hyper sympa pour qu'ils puissent se vendre. Tu vois, il y a quand même un truc un peu encore technologique, j'aime bien. Et à côté, je vais travailler sur le développement des chaussures... de nouvelles collections de chaussures. Donc, tu vois, je suis... parce que moi, mon équipe, à la base, c'est data et business analyst. Alors que je travaille avec des gens à la com, des gens en marketing. Et c'est je demande à ma manageuse d'aller un peu sur leur terrain, travailler avec eux étroitement, et elle accepte. Et du coup, je peux avoir d'autres projets, quoi. Tu vois, un peu varié. Okay. Donc, je suis pas vraiment fixée. Et ça, c'est vraiment... Je sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas, j'ai cette chance-là. D'aller un peu
ça vient de toi quand même, d'après ce que
tu voilà,
dis.
C'est ça. Mais je sais que je suis pas la seule, tu vois, dans le département à être au fin. En fait, je suis au sein de plusieurs équipes, quoi, tu vois.
Ouais.
Et ça, c'est cool.
Tu disais quand même que, du coup, tu te verrais plus dans une entreprise à taille humaine, etc. est-ce que tu penses que tu as quand même trouvé ta voie, que tu resteras dans la mode, ou est-ce que tu te laisses la possibilité de changer encore une fois, deux fois, trois fois, dix fois?
Alors, je sais que ça me plaît beaucoup et que je me vois faire ça longtemps. Après, en fait, le fait de changer une fois un peu de voie, en fait, je ne vois pas du tout la vie comme un métier, tu vois. J'ai ce truc maintenant de me dire, mais en fait, on va travailler toute notre vie. Enfin, si dans 5 ans, non, peut-être pas 5 ans, si dans 10 ans, je vais être dans l'immobilier, enfin, je ne sais pas, être décoratrice d'intérieur, bah, je serai décoratrice d'intérieur, tu vois. Enfin, je n'ai pas de métier. Là, j'adore. Après, peut-être quand je partirai de Paris, parce que je ne me vois pas rester à Paris 50 ans, là, honnêtement. C'est vrai qu'on n'a pas abordé ça, mais Paris, c'est très bien. Mais tu vois, d'ici, je sais pas, 30 ans, 35 ans, je pense que je partirai. Donc, il y a aussi ça, tu vois, c'est un milieu hyper localisé à Paris, pour le coup. Est-ce que quand je pars, je ferai autre chose? Ou alors, je trouverai une petite marque un peu plus, je sais pas, émergente, écolo. Tu sais, il y en a plein, des marques un peu sympas comme ça maintenant. En province ou à l'étranger, je sais pas. Mais ouais, moi je suis ouverte à tout, vraiment. Je pense que le moment où je sentirai qu'il y a un truc qui me plaît, et si ça me plaît assez pour que j'en fasse mon métier, bah, je creuserai.
Comment tu sais que ça te plaît assez pour en faire un métier?
Ah, c'est une bonne question. Tu veux dire actuellement ou plus tard dans la vie ce qui va m'arriver?
Bah, là déjà peut-être, comment t'as su que ça te plaisait assez pour en faire le métier? T'as parlé d'une frustration qui naissait, etc. Mais après, si ça se reproduit, comment est-ce que tu as une idée déjà de questions à se poser? En fait, c'est ma question, elle est...
Non mais je crois que je vois.
C'est pour les gens qui seraient intéressés, quelqu'un qui serait intéressé dans un domaine, comment est-ce qu'il... Quelle question est-ce qu'il peut se poser pour se dire, bon, bah, c'est le métier que je veux faire ou alors c'est juste une passion que je veux garder pour moi?
Alors, c'est une bonne question. Moi, je sais que ça me plaît. Déjà parce que je suis fière d'avoir fait ce parcours. Enfin, tu vois, tu te réveilles le matin et t'es assez fière de toi. Et quand t'en parles, tu le sens, je pense, quand t'aimes bien ce que tu fais. Et puis surtout, bah, je suis contente de... Alors, il y a des jours où j'ai beaucoup de boulot. Enfin, comme tout le monde, je pense que c'est le travail idéal où tout se passe bien dans le meilleur du monde, c'est un peu utopique. Mais oui, je suis contente, j'aime en parler. Tu vois, quand mes parents me demandent ça va, j'adore leur décrire ce que je fais. Même si je parle globalement jamais trop de moi dans la vie, c'est vrai que... Et encore moins du boulot. Mais c'est vrai que j'ai ce truc où je suis assez fière et contente. J'ai envie que les gens sachent un peu ce que je fais. Après, de là, c'est vrai que c'est pas facile ta question aussi. Quand on a une passion, est-ce que c'est une passion au point d'en faire son métier? Je saurais pas. C'est une bonne question. Je saurais pas te dire. C'est vrai que je pense qu'il y a des gens, ils adorent le sport. Est-ce qu'ils veulent faire un métier dans le sport? Je sais pas sûr. Faut voir. Genre, honnêtement, je sais pas. Moi, je sais qu'en tout cas, ça a été le cas. Mais je pense que c'est pas. C'est dur aussi après d'allier. Peut-être que une passion, c'est pas fait non plus des fois pour être un métier dans le monde. Enfin voilà, j'en sais rien.
En fait, c'est un ressenti très personnel, quoi.
Exactement. Je pense qu'on le sent. Il faut pas avoir peur de... Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aux gens. Il faut pas avoir peur de se lancer. Au pire, hein. On est quand même à une époque où on a la chance d'avoir plein de masters spécialisés, de formations en ligne, reconnues. Tu vois, Pôle emploi, je sais qu'ils proposaient... Enfin, je sais pas ce qu'elles valent, les formations Pôle emploi, mais je sais qu'il y en a. Enfin, elles ont le mérite d'être là. Tu vois, il y a plein de choses qui existent de notre génération que nos parents n'avaient pas. Et je trouve ça... Vraiment, il faut oser, quoi, même si on n'aime pas. Moi, c'était ma plus grande crainte, c'était de faire ça et de réaliser que, en fait, je voulais pas, ça me plaisait pas. Que j'avais un peu fantasmé, tu vois, la passion. Et qu'en fait, une fois dans le milieu, me dire, ah non, en fait, c'est pas si bien. Et je regrette un peu d'avoir mis un an et demi et beaucoup d'argent dans tout ça. Mais en fait, il faut oser. Je pense que sinon, il vaut mieux le faire. Et se bananer total et en fait revenir à un truc qu'on a déjà fait avant, plutôt que vivre avec une frustration pendant des années ou se réveiller un jour et péter un câble à son travail. Tu vois que. Enfin, je pense qu'il n'y a rien de pire que la frustration dans la vie. Et il faut se lancer. Et voilà. On ne peut pas savoir ce que ça va donner, donc il faut se lancer pour savoir.
Tu en avais parlé à tes parents de cette peur de finalement que ça te plaise moins que ce que tu aurais pensé?
J'avais un peu abordé le sujet avec eux. Ils avaient dit on verra. En fait, ça m'avait un peu tenté parce qu'ils n'avaient pas trop leur tempérament, ça, de d'être un peu en freestyle. Mais, mais au final, non, ouais, ils ont... Puis il n'y avait pas du tout la pression, genre, bon, on fait ça, mais tu feras ça, enfin, si tu bosses au moins là-dedans, tant d'années. Enfin, tu vois, un truc qui aurait été un peu malsain, tu vois. Non, ils m'ont vraiment pas du tout pris la tête là-dessus. Et, mais je pense que c'est vraiment une peur que certaines personnes doivent avoir. Ça doit bloquer certaines personnes pour se lancer, je pense. Il faut pas. C'est mon message. Je ne dis pas qu'ils vont aimer, mais en tout cas, ça a le mérite d'être fait.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qui se passe différemment dans ce parcours de reconversion ?
Écoute, le Covid, parce que j'avais pas cours.
Non, honnêtement, oui, on n'a pas parlé du coup. C'est peut-être, on peut peut-être l'aborder. Comment est-ce que ça s'est passé du coup les cours pendant le Covid ?
Alors c'était le premier confinement, donc celui qui nous a tous pris de cours là, un peu à la fin du monde là. Donc j'étais rentrée chez mes parents dans le sud et franchement j'avais bien géré. Et au début j'étais assez déçue, je me dis oh faut que je reprends des études, je fais à peine 5 mois de cours et là ça y est on a le Covid. Et en fait ils ont bien géré quand même, bon c'était pas pareil mais ils ont bien géré la prise en charge des cours, on avait des zooms et tout etc. Et je te dis ils avaient décalé les travaux plus pratiques à la rentrée d'après donc ça c'était bien. Et j'avais lié pas mal d'amitiés déjà avec des filles dans les mois avant, donc on était hyper proches, on se voit tout le temps encore maintenant, enfin ça a vraiment fait des amitiés fortes. Et donc ça nous a aussi renforcé un peu la distance, enfin pas renforcé, mais on s'est un peu aidé mutuellement là-dedans.
Ouais, tu t'es pas sentie, enfin du coup le fait d'avoir eu ces quelques mois avant et d'avoir pu créer des liens, tu t'es pas forcément sentie seule au monde, abandonnée non, derrière ton ordinateur.
Peut-être qu'il y en a eu, hein. Moi je parle vraiment pour moi, Non, et puis c'est le moment où on commençait à chercher des stages. Puis moi, ça m'avait fait du bien, cette période un peu aussi de off.
De ralentissement.
Ouais, de voir personne. tu sais, t'es là et tu te donnes aucune excuse. Tu veux pas sortir de chez toi, juste tu vois personne. Moi, ça m'avait fait beaucoup de bien. Après, là, c'était long. Les confinements d'après, là, les couvre-feux, là, c'était un peu une galère. Mais le premier confinement, j'ai un bon souvenir.
Voilà. T'as toujours un bon souvenir de des choses difficiles.
Là, j'étais dans un bon mood quoi.
Mais trop bien.
À part le Covid, du coup, pour revenir à ta question, j'ai pas de. En tout cas, ça me vient pas, mais si j'y repense à la posteriori, je te dirais, mais j'ai pas de choses que j'aurais aimé différentes.
Est-ce que t'aurais aimé avoir ce déclic de la mode avant et te lancer dans les études directement après le lycée dans la mode ? Ou est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'avoir fait ces études d'ingénieur pour après te réorienter ?
Moi, honnêtement, si c'était à refaire, je pense que je referais exactement la même chose. C'est peut-être bizarre à entendre, mais non, je te dis, la prépa, j'ai aimé de se stimuler intellectuellement, enfin, c'était assez fort et je regrette pas du tout. À refaire, je ferai la même chose, je pense. Puis il y a aussi ce côté un peu scientifique quand même qui, tu vois, que j'ai toujours eu. Donc au final, école d'ingénieur, écoute, bon, pourquoi pas. Non, franchement, si ça me... À refaire, je pense que je ferai ça. Et après, des études de mode. Je trouve que ça fait un profil un peu plus atypique, peut-être que... Voilà.
Est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé, une question que je n'ai pas posée, un truc que tu aimerais dire ?
Écoute, ça va. Merci encore de me recevoir. Non, je pense qu'on a fait le tour. Alors, j'ai bien guidé l'échange.
J'ai ma petite dernière question.
Oui, je t'écoute.
Tu te souviens ou tu ne te souviens pas ?
Ah non, celle-là, je ne l'ai plus.
Est-ce que je te l'avais posée ? Est-ce que... peut-être qu'elle est venue après. Non, si, je pense que je te l'avais posée.
Je ne sais plus.
Est-ce que tu as un mantra, une citation, un truc qui guide un peu ta façon de voir les choses, de vivre ta vie, de dicter ton avenir C'est très philosophique.
Non, ouais, tu as raison. Tu m'avais posé la question et je crois que j'avais dit que je ne savais pas, que j'allais t'envoyer un truc à posteriori aussi. Mais non, je n'ai pas de citation. Moi, c'est plus... c'est hyper bateau ce que je vais dire, pas vivre au jour le jour, mais oui, vraiment, se laisser aller. Et... La vie, ça va trop vite, il faut se poser et profiter, et pas faire du plan sur la comète pendant 10, 15, 20 ans, quoi. Moi, je suis un peu comme ça. J'ai pas de situation qui vraiment idéalise, c'est pas le mot que je cherche, pour visualiser mon propos, mais si j'en trouve une, je te dirai.
Très bien, mais c'est déjà très bien comme ça. Okay. Merci beaucoup.
Merci à toi, Manon.
À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous pouvez retrouver toutes les infos de celui-ci dans les notes, dispo sur le site www.podcast-oledépart.com. Vous pouvez retrouver Lucie sur Instagram, @lucie-gttrd, si vous voulez lui poser des questions sur son parcours ou sur l'IFM, Institut Français de la Mode. Si vous avez aimé l'épisode, si vous aimez le podcast et si vous voulez une saison 3, je vous invite fortement à laisser une note 5 étoiles sur votre appli d'écoute habituelle et même un gentil commentaire, notamment sur Apple Podcast. Après, si ça vous embête, je peux le comprendre. Vous pouvez aussi parler du podcast autour de vous, à tous vos proches, à tous vos amis, sur vos réseaux sociaux. J'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous pour le faire grandir le podcast. Alors, je compte sur vous. Et puis, si vous voulez papoter, me poser des questions ou même me proposer votre histoire pour venir la raconter dans le podcast, vous pouvez me retrouver par mail à manon@podcast-oledepart.com. Sur le site du podcast, toujours www.podcast-oledepart.com, ou encore sur Instagram sous le pseudo @itinéraire.dunepassionnée. Je vous dis à dans 2 mois sur le podcast, passez une bonne fin d'année, de bonnes fêtes, et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.